Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, son Fils, notre frère. Nous avons la ferme assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Bienvenue à l'Oratoire du Louvre pour ce culte des rameaux. Bienvenue à celles et ceux qui peut-être franchissent le seuil de ce temple pour la première fois. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Que nous soyons proches ou lointains, nous sommes dans l'incertitude du lendemain. Nous sommes dans l'inquiétude provoquée par les soucis du monde, mais aussi d'autres soucis quotidiens récurrents. Cependant, ce culte est un moment privilégié où nous sommes unis par le même esprit. C'est celui qui nous guide sur les chemins de la fraternité, malgré l'humanité déchirée, et nous procure la paix intérieure dont nous avons besoin pour rester à la fois confiants, lucides et toujours dans le discernement. Le culte qui nous réunit ce matin est accompagné par David Cassan à l'orgue. Puissions-nous vivre ce moment, l'esprit au repos et le cœur apaisé. Prions. Seigneur, tu es le port tranquille de tous ceux que les flots de la vie agitent. Tu donnes l'espérance à ceux qui désespèrent. Tu es le salut des malades, le soutien des éprouvés, le guide des aveugles. Tu es l'appui des épuisés. Que j'obtienne le repos avec ceux qui mettent leur confiance en toi. Amen. Je vous invite à ouvrir ce culte en prenant maintenant le premier répond du temps de la Passion que vous trouverez au tout début du psautier français. Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour, je vous invite à vous lever. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Trop basses, trop étroites les portes de Jérusalem pour l'entrée de ce roi glorieux, il les faudrait plus hautes. Pour celui qui vient, il les faudrait plus larges. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Mais ne serait-ce pas l'expression de mon désir de me ranger sous une loi, sous une puissance ? Désir qu'il triomphe et qu'avec lui je triomphe moi aussi dans une église qui a besoin de grandeur et de majesté pour vivre. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Laissez entrer le roi de gloire. Le voici. Il vient sur un âne. En fait, la porte est déjà trop large et trop haute pour le serviteur qui va laver les pieds de ses disciples et mourir sur la croix. Nous te saluons du plus profond de notre cœur. Béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur. Béni sois-tu, toi, messager vivant de la paix. Cette paix, ta paix, donne-nous de l'accueillir, d'en vivre et d'en témoigner là où nous sommes. Que nous soyons avec toi et par toi des artisans de paix, malgré les épines qui sans cesse menacent de l'étouffer en nous et autour de nous. C'est à toi que nous confions notre monde d'enfants et d'adultes assoiffés de paix et de vie. Amen. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 95, psaume 95 que vous trouverez dans le psautier français. De ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu avec ce texte du prophète Zacharie. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon tout jeune. Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Prions ensemble. Éternel, ils sont devant nous les temps de la violence, de la guerre et les temps du silence. La grande nuit du deuil, le point de solitude où convergent tous nos chemins de croix. Nous t'en prions. Donne-nous chaque jour la lumière de ton visage, pour qu'elle irradie encore à l'heure de ton absence. Éternel, tu ne contournes pas le réel, au contraire, tu prends les vents de face. Tu épouses charnellement la condition humaine. Tu connais nos déserts, l'aridité et la mort, et tu connais aussi le chemin d'un royaume qui transcende nos misères. Éternel, nous t'en prions. Donne-nous d'en goûter dès à présent la permanence pour métamorphoser nos vies en particules d'éternité. Amen. Pour recevoir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Dieu nous aime avec nos limites et nos défauts. Il nous accepte tels que nous sommes. Il a rejoint notre humanité en Jésus-Christ pour lui donner une vie nouvelle. Que son pardon et sa miséricorde nous relèvent et nous fassent vivre. Amen. Je vous propose de vous unir à ce texte de ma consœur Béatrice Cléromazir pour notre confession de foi. Je crois en Dieu sans pouvoir le définir. Il est la transcendance qui donne une autre dimension à ma vie. Je ne connais pas son nom, je n'ai de lui aucune image, mais toujours dans ma vie, il est là comme une lumière qui éclaire mon chemin, un vis-à-vis dans la solitude des jours. Je crois que si ma foi vacille, il croit en moi sans se désespérer, et c'est mon espérance. Je crois en Jésus et je crois qu'il est le Christ. Dieu s'est révélé à lui et l'a pris pour fils. Il a cru en l'amour de Dieu et a aimé son prochain inconditionnellement. Il a été fidèle jusqu'au bout, loyal jusqu'à en mourir, et son exemple me conduit. Jésus est pour moi un maître de sagesse et sa résurrection a lieu chaque fois que nous marchons dans ses pas. Je crois en l'Esprit Saint et je ressens son action entre les hommes qui veulent faire advenir le royaume de Dieu. Il nous réunit dans la communion fraternelle. Il me reprend quand je m'égare et il éclaire les ténèbres de ma vie. J'ai confiance en son souffle. Il m'a tant de fois sauvée. Je crois en l'homme quand il transforme le monde pour le rendre plus juste, plus beau et habitable pour tous. Je crois que nous faisons ce que nous pouvons, même si ce n'est pas assez. Et j'ose croire que la foi, l'espérance et l'amour président à l'action de beaucoup sur cette terre. Je crois qu'il me faut ressusciter chaque jour de ma vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous lirons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagé et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. » Ils sont partis et ont trouvé un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ». Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Merci, Éternel, pour ta parole qui aujourd'hui nous rejoint là où nous sommes, là où nous en sommes. Amen. et dans le recueil Louange et prière, je vous invite à prendre maintenant le cantique 117. Cantique 117, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, comment entendre ta parole alors que nous sommes bousculés par l'actualité internationale et qu'en nous monte l'inquiétude sourde devant les images de nos écrans ? Comment vivre ce qui, en ta parole, résonne en harmonie avec nos cœurs? Comment accueillir ce qui, en elle, est en dissonance avec nos habitudes? Nous voulons, en tout cas, discerner ta présence ce matin, reconnaître nos limites et nos manquements, et d'entrée, te dire aussi notre confiance, car tu es celui qui nous éveille. Celui qui nous relève, celui qui nous met en route, celui qui nous accompagne sur le chemin, aussi difficile soit-il. C'est toi que nous cherchons, éternel Dieu de la vie, en écoutant ta parole. Qu'elle soit féconde et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait germer et grandir en nous le désir de vivre à ta suite. Amen. Amis, frères et sœurs, l'évangéliste Marc nous offre un récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem bien orchestré. Tout y est. Les préparatifs minutieusement décrits, avec cette annonce sur laquelle personne n'est jamais monté. L'entrée dans le temple de Jérusalem, certainement sur le parvis et non pas à l'intérieur, puisque le chœur et cet accès n'est réservé qu'aux prêtres. Et puis, il y a cette petite phrase de conclusion, précisant que Jésus retourne à Béthanie. Trois noms de lieux sont énoncés, Bethphagée, Béthanie et le mont des Oliviers, les lieux centraux dans le drame qui va se jouer. Trois lieux géographiques qui ont leur importance. Béthanie, de d'abord, c'est l'endroit de l'amitié et du ressourcement avec Marthe et Marie. C'est l'endroit où, dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscite Lazare. Béthanie, c'est aussi le lieu de l'onction de Jésus par cette femme anonyme dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, mais prénommée Marie, sœur de Lazare, dans l'évangile de Jean, qui va répandre un parfum de grand prix sur les pieds ou sur la tête de Jésus, suivant les récits, symbolisant déjà son ensevelissement futur. Béthanie, littéralement la maison des pauvres. C'est aussi l'endroit où Jésus annonce à ses disciples que justement, ils auront toujours des pauvres parmi eux, mais que lui, Jésus, ils ne l'auront pas toujours. Le mont des Oliviers, alors c'est l'endroit où Jésus se retire pour avoir un dernier entretien avec ses disciples, pour veiller et prier, juste après avoir partagé le repas de la Pâque. Il chante des psaumes et Jésus prie son Père d'éloigner de lui la coupe des douleurs, mais il s'en remet totalement à la volonté de son Père. C'est aussi l'endroit où Jésus sera arrêté. Et la mention de Bethphagée, qui veut dire la maison des figues, comme anticipation du figuier maudit, quelques versets suivants, et qui est une métaphore du temple. Dans les autres chapitres de l'évangile de Marc, Jésus était sans cesse en mouvement entre la maison, la synagogue, la barque, les champs, les chemins. Mais maintenant, tout se resserre entre Jérusalem, Béthanie et le temple. Et justement, après son entrée dans Jérusalem et avant de retourner à Béthanie, Jésus regarde tout autour de lui. Il regarde la ville. Il regarde les hommes et les femmes qui y sont avec ce regard que j'imagine profond et pénétrant et qui laisse supposer qu'il sait tout de chacun jusqu'au profond, plus profond de lui-même. Il sait tout du mauvais de l'être humain comme du meilleur, bien mieux que l'être humain ne le sait lui-même. Et en même temps, en regardant profondément tout ce qui l'entoure, Jésus ne juge pas, mais il se donne. Et par ce regard, il donne sa bénédiction sur toutes et tous. Il n'ignore pas de quoi les jours suivants seront faits pour lui. Livré, condamné à mort, crucifié, il sera offert à tous les bras étendus sur une croix, grands ouverts sur la multitude, afin que personne ne soit privé ou exclu du don qu'il fait de lui-même. Personne ne le sait encore. Personne ne veut le savoir, d'ailleurs, mais lui le sait. Malgré son corps éclaté, écartelé sur la croix, sa vie donnée pour tous et pour chacun, c'est l'amour de Dieu pour tous et pour chacun. C'est sa bénédiction sur nous tous et sur chacun. Et j'ai écrit cela en pensant au tableau de Dali, le Christ de Saint-Jean de la Croix, de 1951, surplombant le monde, symbolisé par le lac et la barque, les bras étendus parallèles à la croix, en signe de bénédiction sur le monde, avec un corps sans clous ni blessures. Chacun pourra le recevoir le moment venu comme une bénédiction dans sa propre vie. La scène des préparatifs de l'entrée annonce celle des préparatifs du dernier repas. C'est maintenant le temps de l'accomplissement. Laissez entrer le roi de gloire, chantait déjà le psalmiste. Mais le psalmiste ne savait pas qui serait exactement ce roi de gloire. Alors, comment cette entrée va-t-elle se faire? Et Jésus indique à deux de ses disciples ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent dire. D'abord, se procurer un âne. Ici, c'est immédiatement un ânon. Il mentionne aussi l'objection qui ne manquera pas d'être dite lorsqu'ils le prendront. Et les disciples trouvent toutes ces choses comme Jésus le leur indiquait. Ainsi, l'évangéliste Marc suggère-t-il que Jésus sait vers quoi il va et il ne reculera pas conformément aux trois annonces de la Passion qui précèdent. Vous direz, le Seigneur en a besoin et c'est le mot de passe pour signifier cet accomplissement en marche. Laissez entrer le roi de gloire. Si les propriétaires consentent à donner l'annonce, c'est non seulement parce que le Seigneur en a besoin, mais c'est aussi et surtout pour un autre accomplissement, suggéré dans l'évangile de Marc, mais cité explicitement dans l'évangile de Matthieu, la prophétie de Zacharie. Dites à la fille de Sion, « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il s'agit d'une prophétie ancienne, celle de Zacharie à l'époque d'Alexandre le Grand, mais le contexte n'est pas le même. Les campagnes militaires d'Alexandre n'ont rien à voir avec la mission de Jésus, mais en son temps, Zacharie prophétise la venue de quelqu'un qui fera régner la paix et rétablira la justice, selon le cœur de Dieu. Cette personne ne viendra pas au temps d'Alexandre. Il faudra attendre plusieurs générations avant qu'elle ne se réalise avec Jésus entrant à Jérusalem. L'expression « Seigneur » employée deux fois dans le texte de Marc, l'une à propos de l'âne et l'autre pendant les acclamations, est un titre christologique. Ainsi, l'évangéliste Marc montre quand Jésus, c'est Dieu lui-même qui marche et entre à Jérusalem. Laissez entrer le roi de gloire. Mais qui est-il? Qui est ce roi? Quelle est cette gloire? Jésus ne possède rien. Il n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Il a besoin d'un ânon à emprunter à quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, Jésus empruntera une salle pour le repas de la Pâque. Et ces détails sont là pour illustrer la pauvreté, l'humilité de ce roi qui entre à Jérusalem. Et pourtant, Jésus est accueilli comme un roi, ou plutôt comme le sauveur, ainsi que l'indique ce petit mot, Hosanna, transcrit de l'hébreu, Hoshiana, qui est une invocation à Dieu pour qu'il garde et sauve les pèlerins montant au temple de Jérusalem. Ici, cette acclamation s'adresse à l'envoyé de Dieu. « Sauve-nous !» est en train de crier la foule. Elle voit en lui un sauveur et elle a raison. Laissez entrer le roi de gloire. La gloire de Jésus ou la vocation de Jésus de Nazareth, c'est d'être l'incarnation de l'amour de Dieu pour nous tous. C'est de nous attirer ou de nous tirer à Dieu et de nous amener à lui afin que l'éloignement entre Dieu et nous soit comblé. L'éloignement entre Dieu et nous n'est dû qu'à nous-mêmes ou alors aux règles religieuses qui ont toujours une bonne raison de rejeter ou d'exclure. Jésus avait déjà dit à Zachée, le juif, mais collecteur d'impôts, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » L'important, c'est d'être trouvé, et même peut-être d'être retrouvé, afin d'être accueilli, et même dans certains cas, d'être recueilli. Et c'est ce que Jésus vient faire à Jérusalem. Avec ses disciples, et aujourd'hui avec nous, Il vient jusqu'à cette ville qui fait autorité, la ville de toutes les références où la loi de Moïse est reconnue et suivie. Et à Jérusalem, hier comme aujourd'hui, on sait ce qui est bien ou mal, juste ou injuste, pur ou impur. C'est à Jérusalem qu'au temps de Jésus siège le Sanhédrin, conseil supérieur religieux, assemblée suprême des Juifs qui avaient le droit de décision en matière civile et religieuse. Jésus vient au cœur de la foi juive, mais aussi au cœur de la domination romaine. Jusqu'à présent, Jésus était ailleurs, dans le pays, loin de la capitale. Maintenant, il est au cœur du monde, de tous les mondes, au milieu du bon et du mauvais rassemblés. Accueillir Jésus, c'est accueillir le salut. C'est accueillir la bénédiction de Jésus par la foule. Cet accueil est toujours d'actualité. Aujourd'hui, il vient rencontrer notre foi et celle de nos contemporains, toujours aussi grosse qu'une graine de moutarde. Mais si nous choisissons un jour de mettre le Dieu de Jésus-Christ dans notre vie et dans notre foi, alors nous serons poussés à notre tour dans nos retranchements. Il nous faudra supporter les gestes de Jésus qui dérangent, venant renverser nos tables de marchandage, nos tables de compromission et de querelle. Il viendra aussi nous poser la question sur lui et vous, aujourd'hui, qui dites-vous que je suis ? Et les questions de Jésus seront alors radicales et nous ne pourrons pas les éviter. Nos réponses seront hasardeuses, hésitantes, peu fiables, tant qu'elles n'auront pas fait l'objet d'une véritable conversion. Et cette conversion est celle-ci : consentir à être autrement et à aimer autrement. Être et aimer en vérité. Selon la vérité du Christ, l'amour de Dieu pour les hommes a été déterminé de toute éternité. La Bible nous dit que Dieu nous a tout donné, y compris la possibilité de se détourner de lui, de le rejeter, de le renier. Mais il a donné aussi cette possibilité de l'aimer et surtout d'être aimé par lui en premier et ainsi d'être sauvé par l'amour que les hommes sauront lui porter en lui, en le donnant aux autres. Dieu s'en remet aux hommes de génération en génération. Et à partir de Jésus, il nous demande de transmettre cet amour par toutes les formes et en bénissant à notre tour. Certes, Jésus a l'initiative de nous sauver. On peut l'accepter ou non, on peut y consentir ou non. Nos vies sont si contradictoires et si sinueuses. Et nous sommes tellement influençables par d'autres tentations. Il reste toujours ce cercle vicieux de la haine, de la violence, de la rancune et la détestation. C'est la spirale du mal, du mauvais, de la violence, ou de cette vengeance à perpétuité, ce malheur qui peut s'amplifier jusqu'à l'extrême, comme l'histoire ne manque pas de nous faire connaître, tant pour le passé que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais il existe aussi le cercle vertueux, comme celui dont Jésus a l'initiative. Je viens vers toi, je te regarde et je te vois encore mieux que tu ne te vois toi-même. Tu n'es pas réduit à ce que tu penses ou à ce que tu fais. Tu portes en toi quelque chose de plus grand que toi. Tu te découvres aimé et tu peux aimer à ton tour. Voilà ce que Jésus inscrit dans le cœur de celles et ceux qui le voient entrer à Jérusalem. C'est à nous d'en continuer cette inscription dans le cœur d'homme, à commencer par le nôtre. C'est cela, être sauvé. L'entrée de Jésus à Jérusalem me sauve de moi-même. Laissez entrer le roi de gloire. Mais pour être sauvé, en l'occurrence par Jésus, il faut se trouver et se reconnaître dans la situation d'être perdu. Et ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que, nous sommes plutôt dans la tendance d'être sûrs de nous. Nous aussi, nous avons des normes dont nous sommes certains, nous avons des lois que nous respectons la plupart du temps. Nous pensons que nous en savons assez pour ne pas avoir de leçons à recevoir des autres, en tout cas certainement pas d'un plus petit que nous ou quelqu'un de différent de nous. Nous avons tant de mal à être bousculés, bouleversés dans nos façons d'agir et de croire. Nous nous complaisons pour la plupart du temps dans un certain immobilisme et nous n'aimons pas être déplacés malgré nous. Mais si d'aventure, à notre tour, nous accueillons Jésus à Jérusalem, ou finalement dans notre vie, quelque part c'est la même chose, eh bien nous sommes bénis par cette entrée de Jésus, malgré ce que nous sommes, ou plutôt mieux encore, avec ce que nous sommes. Alors, à notre tour, nous jetons nos vêtements et des branches partout pour lui ouvrir la route. Il me semble que nous devons le faire, ne serait-ce que pour retrouver la modestie de notre vie, autrement dit, prendre la juste mesure de notre vie. Si la grâce de Dieu est pour tous, et donc pour moi, et qui me sauve, alors je reconnais aussi que cette grâce me donne la possibilité, l'ouverture d'accepter qu'un autre, même un que je réprouve, un parmi ceux que je condamne d'habitude, soit sauvé aussi par ce même amour. Et bien sûr, cela m'ouvre à quelque chose que je n'avais pas prévu de moi-même, le désir de bénir même celui que je n'approuve pas. La bénédiction de Dieu pour moi à travers le Christ me renvoie au fait que je puisse être moi aussi capable de bénir. Et c'est là que je découvre ma propre humanité. Avons-nous ce sentiment d'être portés par la bénédiction de Jésus et par conséquent de la bénédiction de Dieu dans nos vies? Peut-être avons-nous envie de répondre non. Pourtant, il me semble que c'est cela la foi. La foi, c'est ce sentiment d'être porté par la bénédiction de Dieu. Et finalement, c'est ce que nous disons chaque fois que nous osons un petit « je crois ». Bien sûr, il ne s'agit pas de croire que l'on est parfait, ni même que nous sommes les élus. Il s'agit au contraire de prendre conscience qu'on pourrait être détesté, haï, maudit, persécuté, même par certains selon les béatitudes, et qu'avec tout cela, nous pourrions nous sentir perdus. Mais il y a un acte gratuit de la part de quelqu'un qui se donne. Il y a aujourd'hui un acte libre et le don d'une vie qui vient dans ma vie à moi, comme Jésus entrant à Jérusalem, qui vient me relever, me sortir de la boue. Il y a une parole qui me murmure à l'oreille, comme à la vôtre. Tu es une nouvelle créature. Jésus, en entrant à Jérusalem, vient insuffler une nouvelle vie en moi, en chacun de nous. Il nous aide à respirer plus profondément pour chanter avec la foule « Hosanna au plus haut des cieux ». Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, toi aussi, tu peux laisser entrer le roi de gloire dans ta vie, car il vient et il est là, non pour être servi, mais pour te servir et t'aimer tel que tu es. Amen. Alors, dans le psautier français, à la fin du recueil du psautier français, vous allez trouver quelques chorales qui sont en supplément. Je vais vous inviter à prendre le choral numéro 33, dont nous chanterons les trois strophes, et je vous invite à vous lever. Prenez place. C'est maintenant le moment des annonces et je laisse la parole à Christine, membre de notre conseil presbytéral.
Oui, ça fonctionne. Alors, vous me pardonnerez d'utiliser un petit papier parce que la semaine pascale dans laquelle nous entrons, elle est très riche et du coup, il y a beaucoup d'annonces et je voulais être vraiment sûre de d'en oublier aucune. Et donc, ça commence dès cet après-midi, donc ne vous éloignez pas trop du temple après cet office puisque à 16h, vous pourrez venir écouter un concert donné par les musiciens de l'Armée du Salut. Demain, lundi 25 mars, le groupe protestant des artistes se réunit à 10h, salle Mono, pour l'atelier dessin et peinture. Et à 19h, salle Mono, également à la maison presbytérale, il y a la réunion, l'atelier de grec biblique pour les débutants. Mardi 26, il y a de nouveau grec biblique, mais cette fois-ci pour les confirmés. Et cet atelier a lieu en distanciel à 18h. Par contre, salle Mono à 19h, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée théophile. Vous savez, c'est un thème qui est traité à deux voix, de manière théologique par la pasteur Béatrice Cléromazir et de manière philosophique par Jean-Pierre Cléraud, qui est professeur émérite de philosophie. Jeudi 28, ici dans ce temple à 12h30, la pasteur Agnès Adeline Schaeffer va animer une pause spirituelle. Et le soir, vous avez rendez-vous au temple du foyer de l'âme, à quelques dizaines de mètres de la place de la Bastille, pour la célébration du Jeudi Saint avec la pasteur Dominique Hernandez. Vendredi 29, il y a à 19h, ici même, l'office du Vendredi Saint. C'est une lecture dialoguée de la Passion selon Marc entre Dominique Hernandez et à l'orgue Sarah Kim. Enfin, dimanche 31, c'est le culte de Pâques avec nous serons accompagnés par le chœur de l'oratoire du Louvre. Voilà, vous voyez, c'est une semaine très riche en activités spirituelles, culturelles auxquelles vous êtes tous bien évidemment les bienvenus. Voilà. Et pour nous permettre de faire vivre notre paroisse et de vous proposer toutes ces activités très riches, rien de tel que le don joyeux. Donc je vais laisser place à la collecte. Voilà, en vous souhaitant à tous une très très excellente semaine pascale.
Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, c'est par ta grâce que nous pouvons accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous. Et à travers l'histoire de notre monde, tu t'es montré secourable et tu as répondu aux cris de détresse de ton peuple. Malgré ses égarements, loin de toi. Rends-nous attentifs à notre tour, à la misère de celles et ceux qui périssent lors des guerres, des attentats, des catastrophes naturelles, et qui souffrent de la famine, des bombardements, dans des camps de réfugiés, ou qui souffrent de la famine, dans des emprisonnements arbitraires. Rends-nous conscients de la faculté et du privilège que nous avons de ne pas avoir à supporter ces maux, mais d'avoir la capacité de témoigner de ta présence auprès de celles et ceux qui souffrent. C'est par l'intermédiaire de notre personne que ta grâce peut faire de chaque être humain secouru un nouveau partenaire. Et nous avancerons ensemble vers cet horizon commun, ton règne. Nous te prions en nous remettant nous-mêmes à ton amour pour rester présents et solidaires dans ce monde, pour ne pas nous résigner, parce que nous voulons résister au pouvoir de la force et ne pas faiblir devant ce qu'il y a à faire, devant ce qui surviendra. Nous te prions parce que nous ne voulons pas nous laisser dominer par un esprit de peur ou d'indifférence, mais parce que nous voulons être animés de ton esprit de fraternité et de partage. Alors nous t'en prions. Souffle en nous ce dont nous avons besoin de courage pour rester des amis, des frères et des sœurs, dans la foi comme en humanité, autrement dit des vivants, et ainsi être pour tous des témoins de ton amour sans condition. Et nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, voici l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur que j'emprunte à l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et que la paix de Dieu, qui surpasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Thank you. et je vous souhaite un heureux dimanche.